Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il, venez, Esprit Saint, remplissez le cœur de vos fidèles et mettez en eux le feu de votre amour. Envoyez votre Esprit, Seigneur, et se fera une création nouvelle et vous renouvellerez la face de la terre. Prions, Dieu, qui avez daigné envoyer votre Esprit sur ce monde, donnez-nous par ce même Esprit de comprendre et d'aimer ce qui est bien et de jouir sans cesse cette divine consolation pour le même Jésus-Christ, notre Seigneur. Ainsi soit-il. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Ainsi soit-il. Nos saints anges gardiens, veillez sur nous. Saint Pédis, priez pour nous. Saint Joseph, priez pour nous. Saint Thomas d'Aquin, priez pour nous. Saint Jérôme, priez pour nous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes bien chers frères, mes bien chers amis, nous sommes toujours dans le chapitre 17 de Saint Matthieu, au verset 5, donc dans le polycopier qui contient les chapitres 16 à 20, à la page 12. Donc nous avons déjà expliqué la dernière fois le passage très important, la transfiguration, ou une théophanie de notre Seigneur donc qui dévoile une partie de sa divinité. Et nous allons voir maintenant la fin de des versets concernant cette théophanie, cette transfiguration. Versets 5 à 9 du chapitre 17 de Saint Matthieu. Comme Jésus parlait encore, voici qu'une nuée lumineuse les couvrit. Et voici qu'une voix sortit de la nuée disant, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toutes mes complaisances. Écoutez-le. » Les disciples, l'entendant, tombèrent le visage contre terre et furent saisis d'une grande crainte. Mais Jésus, s'approchant, les toucha et leur dit, « Levez-vous et ne craignez point. » Alors, levant les yeux, ils ne virent plus que Jésus seul. Et lorsqu'ils descendaient de la montagne, Jésus leur donna cet ordre, « Ne parlez à personne de ce que vous avez vu jusqu'à ce que le Fils de l'homme soit ressuscité d'entre les morts. » Une chose importante d'après les pères de l'Église, c'est qu'il y a un parallèle à faire, évidemment, entre la transfiguration de notre Seigneur Jésus-Christ et le baptême de notre Seigneur Jésus-Christ par Saint Jean-Baptiste au Jourdain. Dans les deux cas, notre Seigneur Jésus-Christ non seulement manifeste en partie sa divinité, mais aussi fait une manifestation de la Sainte Trinité elle-même. Ce qu'on va voir dans les deux cas, et dans la transfiguration, dans le baptême de notre Seigneur, on va voir apparaître les trois personnes de la Sainte Trinité. Ici, dans la transfiguration, donc on voit le Fils, qui est entouré de Élie et Moïse. Ça, c'est la deuxième personne. On entend la voix du Père, celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toutes mes complaisances. Donc c'est la première personne de la Sainte Trinité. Et cette nuée lumineuse qui les couvre représente, disent les pères, le Saint-Esprit, donc la troisième personne de la Sainte Trinité. On retrouve à peu près les mêmes choses dans le baptême de notre Seigneur Jésus-Christ. Notre Seigneur Jésus-Christ est présent, baptisé par Saint Jean-Baptiste, ça c'est le Fils, deuxième personne. On entend également la voix de Dieu le Père qui parle, et une colombe vient voltiger sur la tête de notre Seigneur qui représente le Saint-Esprit, donc la troisième personne de la Sainte Trinité. Les pères font également une comparaison très intéressante entre la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ et le baptême de notre Seigneur Jésus-Christ, et en même temps entre notre baptême à nous et notre résurrection lorsque notre corps ressuscitera à la fin des temps. Donc pour eux, la résurrection qui correspond à la première régénération correspond au baptême. Et la deuxième régénération, vous avez ce texte très beau donc des pères donc qui montre le lien donc qui existe entre la régénération spirituelle du baptême et la régénération et la régénération qui est représentée par la résurrection à la fin des temps. Voilà le texte. Vous l'avez sur la page 12 du polycopier. Remarquons le rapport admirable qui existe entre les mystères de cette seconde génération qui doit avoir lieu à la résurrection lorsque notre corps ressuscitera et le mystère de la première régénération qui a lieu dans le baptême où l'âme renaît à une vie nouvelle. Dans le baptême de Jésus-Christ, nous voyons concourir les trois personnes de la Sainte Trinité. Le Fils s'y montre vêtu d'une chair comme la nôtre. L'Esprit Saint y apparaît sous la forme d'une colombe et le Père s'y déclare dans la voix qui se fait entendre. De même dans la Transfiguration, qui est un symbole mystérieux de la seconde génération, toute la Trinité apparaît, le Père dans la voix, le Fils sous la forme de l'homme, l'Esprit Saint dans la nuée. On se demande pourquoi l'Esprit Saint apparut d'un côté sous une nuée, dans une nuée, sous l'autre, dans l'autre, de l'autre, sous la forme d'une colombe. La raison en est que le Saint-Esprit manifeste ses dons sous des formes sensibles. C'est ainsi que dans le baptême, il donne l'innocence figurée par l'oiseau, la colombe, symbole de la simplicité. Mais dans la résurrection, il nous donnera l'éclat, le rafraîchissement. Le rafraîchissement est figuré par la nuée, et l'éclat des corps ressuscités figuré par ce nuage de lumière. C'est au verset 5 du chapitre 57 de Saint Matthieu, chapitre 17 de Saint Matthieu, pardon. Comme il parlait encore, voici qu'une nuée lumineuse les couvrit. Il y a d'autres explications qui sont données par les pères. Voilà ce qu'ils disent sur la nuée. Cette nuée qui couvre et protège les saints, c'est la vertu du Père ou bien l'Esprit Saint. Je dirais même que notre Sauveur est la nuée lumineuse qui couvre l'Évangile, la loi et les prophètes, comme le comprennent bien ceux qui peuvent y contempler sa lumière. C'est pour lui qu'il faut dresser une tente, c'est à lui qu'il faut obéir, c'est lui qui est le Fils. Les autres ne sont que les serviteurs. Ils doivent, à votre exemple, préparer au Seigneur une tente dans le secret de leur cœur. Nous aussi, il faut qu'on puisse dire comme les apôtres, il est bon pour nous d'être ici. Faisons une tente dans laquelle vous puissiez demeurer avec Élie et Moïse. Donc, cette transfiguration, cette théophanie de notre Seigneur Jésus-Christ représente l'habitation de la Sainte Trinité en nous qui est provoqué par le baptême d'une part, et puis ensuite qui est maintenu dans notre âme par la charité. Lorsque nous sommes en état de grâce, eh bien nous maintenons en nous la Sainte Trinité de la même façon que les trois personnes de la Sainte Trinité étaient visibles d'une certaine façon par les apôtres Saint-Pierre, Saint-Jacques et Saint-Jean au sommet du mont Tabor. D'autres remarques, vous avez au bas de la page 12 et au sommet de la page 13 du polycopier, dans les Saintes Écritures, nous voyons les saints tomber le visage contre terre, tandis que les impies sont renversés en arrière. Par exemple, on voit très bien ça dans l'arrestation de notre Seigneur Jésus-Christ. Quand notre Seigneur Jésus-Christ, au Jardin des Oliviers, dit à la foule qui vient l'arrêter, « C'est moi que vous cherchez, je suis Jésus de Nazareth. » Quand il dit « C'est moi, ego sum », ils tombent tous en arrière, paralysés. Et là, au contraire, dans la transfiguration, on voit les apôtres qui tombent, c'est le verset 6, les disciples, l'entendant, tombèrent le visage contre terre et furent saisis d'une grande, grande crainte. Donc il y a une différence entre la prostration d'adoration de Saint-Pierre, Saint-Jacques et Saint-Jean au sommet du Calvaire, au sommet du Tabor, et le renversement en arrière de tous ceux qui sont venus arrêter notre Seigneur Jésus-Christ, qui était un renversement de crainte. Donc, d'un côté, on voit la gloire, d'autre côté, on voit la crainte. Donc, notre Seigneur ne veut pas que cet événement soit prêché au peuple, c'est ce qu'il dit là. Il dit, ne parlez à personne de ce que vous avez vu, jusqu'à ce que le Fils de l'homme soit ressuscité d'entre les morts. Donc il ne veut pas que cet événement soit prêché au peuple dans la crainte que la grandeur même du prodige ne le rendît incroyable et que la croix qui devait suivre La manifestation d'une si grande gloire ne fut un scandale pour les esprits grossiers. Il faut bien comprendre, je l'ai déjà expliqué avec les pères, que notre Seigneur Jésus-Christ se transfigure au sommet du calvaire pour aider les apôtres à accepter la croix. Au moment où ils vont voir la divinité en quelque sorte se cacher pendant la passion, notre Seigneur veut que les apôtres n'oublient pas la transfiguration pour se rappeler, attention, ma divinité se cache pendant la passion, mais elle est toujours là, je suis toujours Dieu. Malheureusement, les apôtres ne vont pas comprendre la leçon et vont perdre la foi au moment de l'arrestation et tous se sauver comme des lapins. D'autres textes des pères sur le même sujet, à la page 13 sur le polycopie, dans la transfiguration, disent les pères, comme pour le baptême du Christ, la Trinité était symboliquement représentée. Le Saint-Esprit par le nuage, le Père par la voix, le Fils par la gloire et la lumière divine, eux qui furent là pour accomplir l'incarnation du Verbe. Le Christ était vu comme homme, mais par la splendeur et la voix de Dieu le Père, il était signifié qu'il était aussi Dieu. Le Saint-Esprit fut esquissé par le nuage comme une nuée lumineuse, il bénit et glorifie, illumine l'homme, le protégeant, le rendant fertile en bonnes œuvres. Au cours du baptême du Christ, le Saint-Esprit apparut sous la forme d'une colombe, car il donne l'innocence, mais la transfiguration qui est le symbole de la résurrection, il vint sous les apparences d'un nuage, car il donna et donnera par cette résurrection la sécurité sur tous les maux. Moïse et Élie vinrent et parlèrent avec le Christ de sa mort sur la croix qu'il se préparait à accomplir à Jérusalem. On voit la même nuée, par exemple, comme moyen de protection pendant la nuit du peuple hébreu qui a fui la terre d'Égypte et qui est poursuivi par l'armée de Pharaon. Donc ils sont protégés par une nuée lumineuse pendant la nuit et un nuage en quelque sorte obscur pendant le jour qui empêche l'armée de Pharaon d'atteindre et de voir les Hébreux qui sont quelque sorte cachés et protégés par ce nuage à la fois sombre et lumineux. Donc je crois que c'est un point important. Les pères de l'Église, je vous l'ai déjà dit, expliquent davantage certains passages. Et un de ces passages sur lesquels ils insistent lourdement, c'est la transfiguration. Il ne faut pas oublier cette transfiguration alors que notre Seigneur Jésus-Christ arrive à sa passion. Sinon, on ne voit plus que l'humanité de notre Seigneur Jésus-Christ, on oublie sa divinité. Il y a un lien donc très très fort entre le mystère de la transfiguration, parce que c'est quand même un mystère, et le mystère de l'incarnation. Donc, de même que dans l'incarnation, par l'incarnation, il y a l'union de la nature humaine et de la nature divine dans la personne de notre Seigneur Jésus-Christ, de même dans la transfiguration, les apôtres ont vu une manifestation de l'incarnation, ils voient la nature humaine qui parle avec Élie et Moïse, et en même temps, ils entreaperçoivent en quelque sorte la divinité qui est manifestée par cette nuée lumineuse qui va couvrir le sommet du Tabor et par le fait que notre Seigneur Jésus-Christ se transfigure et dans son visage et dans ses vêtements. Versets 10 à 13 du chapitre 17. Ses disciples l'interrogèrent alors en disant « Pourquoi donc les scribes disent-ils qu'il faut qu'Élie vienne auparavant ?» Mais Jésus leur répondit « Il est vrai qu'Élie doit venir et qu'il rétablira toutes choses, mais je vous dis qu'Élie est déjà venu et ne l'a point connu, mais ils lui ont fait tout ce qu'ils ont voulu. C'est ainsi que le Fils de l'homme doit souffrir par eux. » Alors les disciples comprirent que c'était de Jean-Baptiste qui leur avait parlé. En fait, on voit très bien la transfiguration à la fois Élie et Moïse. Moïse représente la loi et Élie représente les prophètes. Élie, je veux dire, il y a une hiérarchie en quelque sorte dans le temps. D'abord Moïse, puis Élie, puis Saint Jean-Baptiste. Donc Saint Jean-Baptiste est la continuation en quelque sorte de Moïse, la loi des 10 commandements de Dieu, d'Élie et les prophètes, le dernier des prophètes de l'Ancien Testament ou le premier du Nouveau Testament, comme vous voulez, sera Saint Jean-Baptiste, qui va servir de dernier lien, en quelque sorte, qui annonce notre Seigneur Jésus-Christ, parce que Saint Jean-Baptiste a commencé sa prédication juste avant la vie publique de notre Seigneur. Il avait Il avait quelques mois de plus de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc Élie rétablira toutes choses en guérissant l'infidélité des Juifs qui existeront à la fin du monde, c'est-à-dire suivant l'Écriture, en réunissant les cœurs des pères avec leurs enfants, ce qui doit s'entendre du cœur des Juifs avec les apôtres. N'oublions pas que saint Paul a prédit qu'il y aurait à la fin des temps une conversion du peuple juif, au moins d'une partie du peuple juif. Le texte n'est pas très clair et c'est pas évident de savoir exactement comment va se manifester cette conversion du peuple juif. Est-ce que c'est le peuple juif tout entier qui va se convertir ou est-ce que ce n'est qu'une partie du peuple juif qui va se convertir? C'est difficile de comprendre. Ce qui est sûr et certain, c'est que tous les pères disent qu'un des signes de la fin du temps sera la conversion au moins partielle du peuple juif. C'est pour cela d'ailleurs, je crois que c'est aussi important de comprendre cela, je vous l'ai déjà dit souvent, que nous ne sommes pas du tout à la fin des temps parce qu'on n'a pas vu justement cette conversion du peuple juif qui est annoncée par les pères de l'Église. Donc, on voit une succession depuis Moïse à Élie, à saint Jean-Baptiste, qui est annoncée ici. Et ces trois amis de notre Seigneur, Moïse, Élie et saint Jean-Baptiste, annoncent en quelque sorte trois marches de l'escabeau qui amène à notre Seigneur Jésus-Christ lui-même. Versets 14 à 18. Lorsqu'il fut venu vers la foule, un homme s'approcha de lui et se mit à genoux devant lui et lui dit « Seigneur, ayez pitié de mon fils qui est lunatique et qui souffre beaucoup, car il tombe souvent dans le feu et souvent dans l'eau. Je l'ai présenté à vos disciples et ils n'ont pu le guérir. » Jésus répondit « Ô génération incrédule et perverse, jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous souffrirez-je? Amenez-le-moi ici. » Et Jésus le menaça, le démon sortit de l'enfant, qui fut guéri à l'heure même. Alors les disciples s'approchèrent de Jésus en particulier et lui dirent, « Pourquoi n'avons-nous pas pu le chasser ?» Et notre Seigneur va répondre, qu'ils n'ont pas pu le chasser parce que ce genre de démon ne se chasse que par le jeûne et la prière. Il est évident que là, les apôtres vont avoir une grande claque sur les nez, une grande humiliation de voir qu'ils ne sont pas capables, malgré le don des miracles qu'ils ont reçu de notre Seigneur Jésus-Christ, ce don des miracles était limité. Le pouvoir qu'ils avaient sur le démon, le pouvoir exorciste en quelque sorte sur le démon, était également limité. Et pour bien montrer que ce pouvoir venait de notre Seigneur Jésus-Christ, donc les Juifs qui n'arrivent pas à faire exorciser le Fils de cet homme qui s'approche des apôtres, ce monsieur va être obligé d'aller à notre Seigneur Jésus-Christ pour bien montrer que le pouvoir vient d'en haut et pas d'en bas. Et c'est un petit peu la même chose pour nous. Donc même si le bon Dieu peut donner parfois à certains de ses saints des pouvoirs miraculeux, donc le pouvoir miraculeux vient de Dieu. Notre Seigneur Jésus-Christ laisse en cela un exemple aux prédicateurs, c'est de reprendre et de poursuivre les vices, mais de soulager les hommes. Et voilà ce que disent certains pères, au sens figuré, le lunatique, donc c'est une personne, on l'appelait les lunatiques, des personnes qui étaient possédées par le démon, surtout aux périodes de pleine lune. Ça existe encore toujours aujourd'hui, il y a parfois des gens qui sont pas très équilibrés, qui sont un peu fous, et qui ont des crises de folie très fortes, surtout au moment de la pleine lune. Il y a parfois des actes répréhensibles qui sont faits par certaines personnes qui sont sous la possession directe ou indirecte d'un démon et qui ne font ces actes que dans les périodes de pleine lune. C'est pour ça qu'on les appelle des lunatiques. Et voilà ce que disent les pères. Je crois que dans le sens figuré, le lunatique est celui qui par moments retourne au vice, ou qui plus tantôt se précipite dans le feu parce que le cœur des adultères est comme une fournaise embrasée. Et tantôt il se jette dans les eaux des voluptés et des désirs charnels qui ne peuvent éteindre la charité. Le feu signifie la colère parce qu'il tend à s'élever en haut, et l'eau les voluptés de la chair. Donc c'est pour expliquer ce verset. Seigneur, ayez pitié de mon fils qui est lunatique et qui souffre beaucoup car il tombe souvent dans le feu et souvent dans l'eau. Donc le feu représente la fournaise embrasée, vraisemblablement des péchés contre la pureté, et l'eau, au contraire, représente... Attendez, je reprends le texte là. Donc, le feu représente le cœur des adultères comme une fournaise embrasée par toutes les trois concupiscences, alors que l'eau représente les voluptés, les désirs charnels, c'est-à-dire surtout la concupiscence de la chair. Et le Christ va faire donc des reproches à ses apôtres à cause de leur manque de foi insuffisante pour une œuvre d'une telle dimension. Vous voyez, il maintient les apôtres dans l'humilité. Versets 19 à 21, voilà la réponse de notre Seigneur à l'objection des apôtres qui viennent le voir en lui disant, mais pourquoi, en privé, mais pourquoi n'avons-nous pas pu chasser ce démon? Et Jésus leur dit, verset 19, à cause de votre incrédulité, car en vérité, je vous le dis, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne, transporte-toi d'ici, là, et elle s'y transporterait, rien ne vous serait impossible. Mais cette sorte de démon ne se chasse que par la prière et le jeûne. Et tandis qu'ils se trouvaient en Galilée, Jésus leur dit, le Fils de l'homme doit être livré entre les mains des hommes. On voit très bien que notre Seigneur Jésus-Christ utilise tous ces miracles, la transfiguration, puis la guérison de ce lunatique, la guérison de ce lunatique qui est guéri à l'heure même, comme des preuves de sa divinité, et donc un moyen indirect pour préparer les apôtres à la passion qui arrive. Mais malheureusement, les apôtres vont oublier toutes ces preuves de sa divinité que leur avait donné notre Seigneur Jésus-Christ. Les pères utilisent souvent donc le grain de sénévé. Le grain de sénévé, qui est pris comme exemple par notre Seigneur Jésus-Christ, c'est le grain de moutarde, la graine de moutarde. Chez les anciens, la graine de sénévé et le grain de moutarde, c'est la même graine. Je ne sais pas si c'est toujours considéré comme la même graine en horticulture aujourd'hui. Je n'ai pas de connaissance particulière sur ce sujet. Mais chez les anciens, c'était la même. Et donc, les agriculteurs savaient, ou ceux qui faisaient ces choses-là, savaient qu'il fallait broyer la graine de moutarde pour qu'elle puisse donner son arôme et toute sa force. Et tant que la graine de moutarde n'était pas broyée, elle ne pouvait pas donner sa force, son piquant. Eh bien, c'est la même chose avec notre foi. Voilà ce que disent les pères. Les apôtres avaient la foi, sans doute, mais étaient loin d'être parfaites. Car pendant le séjour du Seigneur sur la montagne, elle s'était affaiblie au contact de la foule, au milieu de laquelle ils étaient restés. Pourquoi ? Parce que plus on reste dans le monde, plus on prend l'esprit du monde. Quand on vit dans une poubelle, on finit par s'y sentir mauvais. C'est pour cela que notre Seigneur Jésus-Christ, on le voit très souvent, s'écarte des foules. Certes, il s'occupe des foules, il va souvent prêcher à partir de la barque ou directement sur le rivage du lac de Génézareth, du lac de Tibériade, il va prêcher aux foules, mais régulièrement, il s'éloigne des foules pour repartir dans le désert, s'isoler, et par la prière, retrouver un contact plus fort avec son Père dans le sein de la Sainte Trinité. Il est donc évident, d'après ces paroles, que quelques-uns des disciples, mais non pas tous, avaient faibli dans la foi, car ceux qui étaient comme des colonnes, c'est-à-dire Pierre, Jacques et Jean, n'étaient pas alors avec eux. Mais de toute façon, ce qu'il faut bien savoir, bien comprendre, c'est que de toute façon, même Saint-Pierre, même Saint-Jacques et même Saint-Jean vont faiblir dans leur foi au moment de la Passion, puisque tous vont s'enfuir. Tous. Même Saint-Jean. Même le futur pape Saint-Pierre. Seule la très Sainte Vierge Marie a conservé la foi et sera là au pied de la croix. Elle est prise par la main littéralement Saint Jean pour être sûr qu'il y avait au moins un apôtre qui était témoin de la mort de notre Seigneur Jésus-Christ, mais les apôtres avaient tous perdu la foi à ce moment-là. Il arriva donc que les disciples faiblirent ici dans la foi, parce que leur disposition était imparfaite avant la passion du Sauveur. En fait, leurs dispositions vont devenir parfaites qu'au moment de la descente sur eux du Saint-Esprit, le jour de la Pentecôte, 50 jours après la résurrection de notre Seigneur. On voit bien une purification des apôtres qui au début ne croyaient pas en notre Seigneur Jésus-Christ vont commencer à croire en lui au moment de son premier miracle, le miracle de Cana, et ensuite cette augmentation va grandir, si vous voulez, jusqu'à la Passion. Malheureusement, la Passion va être pour eux un scandale quand ils vont voir notre Seigneur Jésus-Christ être vilipendé, être flagellé, être couronné d'épines, puis finalement être crucifié publiquement au sommet du calvaire. Là, ils vont craquer littéralement, et ils vont oublier que cet homme qui meurt sur la croix du calvaire est en même temps Dieu, et que si l'homme peut mourir, Dieu ne peut pas mourir, que donc notre Seigneur Jésus-Christ étant Dieu va, étant donné que son âme et son corps même séparés dans la mort sont toujours unis à la divinité, il va pouvoir, par cette union entre la divinité et la nature humaine de notre Seigneur Jésus-Christ, il va pouvoir provoquer la résurrection de cette nature humaine qui va même prendre un corps bienheureux, les privilèges des corps glorieux après la résurrection. Donc si le grain de sénévé, donc si le grain de moutarde n'est pas broyé, c'est quand notre Seigneur Jésus-Christ en parle ici, il ne fait point sentir sa vertu. Ainsi, lorsque la persécution accable et broie, pour ainsi dire, l'homme juste, que tout ce qui paraissait en lui de méprisable et d'informe se change en vertu pleine de ferveur. Donc, ce broyage de la graine de moutarde représente la passion de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, la foi est comparée au grain de sénévé, au grain de moutarde, parce que les hommes n'ont pour elle que du dédain et la regardent comme une chose de peu d'importance et sans aucune valeur. Or, la maladie de ce lunatique est si forte et si difficile à guérir parmi toutes les autres qu'elle est comparée ici à une montagne et que ne peut être guérie que par toute la foi de celui qui entreprend cette guérison. Donc, notre Seigneur Jésus-Christ donc, va pouvoir guérir ce lunatique alors que les apôtres ne le pouvaient pas à cause de leur manque de foi. Bon, Dieu permet parfois des épreuves de ce genre. Eh bien, justement, pour nous aider à ne pas trop compter sur nos propres forces et nous rendre compte, nous aider à comprendre et à réaliser davantage que nous ne pouvons rien sans le bon Dieu. Et donc, on verra plusieurs paraboles de notre Seigneur où il prend comme base de la parabole la graine de moutarde, qui est la plus petite des graines du potager, mais qui va devenir littéralement presque comme un arbre sur lequel, dit-il, les oiseaux du ciel vont pouvoir venir nicher. Et ces oiseaux du ciel, on verra plus tard, représentent les vertus, les différentes vertus que notre Seigneur Jésus-Christ veut voir dans notre âme. Dans notre âme doit se développer comme une graine de sénévé, une graine de moutarde, et de même que la graine de moutarde va pouvoir donner toute sa force, toute sa suavité et son acidité que après avoir été broyée de la même façon, eh bien notre âme va être capable de s'unir à notre Seigneur Jésus-Christ qu'après avoir été broyée par les persécutions, les épreuves et les tentations de toute espèce. La foi est comparée donc au grain de sénévé parce que les hommes n'ont pour elle que du dédain et la regardent comme une chose de peu d'importance, sans aucune valeur. Mais lorsque cette semence trouve une âme bonne, comme une terre bien disposée, elle devient un grand arbre. C'est ça que notre Seigneur ici fait allusion à la parabole du semeur. Donc, le semeur qui va lancer sa graine et qui va tomber une partie sur le chemin, une partie sur la pierre, une partie dans les épines et une partie dans la bonne terre. Qui représente les différentes réceptions ou refus de réception de la grâce sanctifiante dans une âme. Donc, il y a des gens qui refusent notre Seigneur Jésus-Christ ou parce qu'il n'y a pas de racine, donc la graine ne va pas pouvoir germer, ou parce que les épines qui représentent les trois concupiscences, donc les attraits du monde, empêchent la graine de se développer. Et même pour la graine qui tombe dans la bonne terre, notons que cette graine ne donne pas partout le même fruit, que ce fruit va dépendre de la réceptivité à la grâce sanctifiante de l'âme en question. Il y a des âmes qui vont donner donc du 30%, des âmes qui vont donner du 60% et des âmes qui vont donner au contraire du 100%. Donc la montagne ici dont il est question, La montagne qu'il s'agit ici de transporter n'est point une de ces montagnes qui peut être aperçue des yeux du corps, mais cette montagne qui fut enlevée de l'âme du lunatique et dont Jérémie a dit qu'elle corrompait toute la terre. Donc cette montagne représente l'orgueil. C'est pour ça que Saint Jean-Baptiste, dans ses préparations à l'arrivée de notre Seigneur Jésus-Christ, dans ses discours de préparation, parle de ces montagnes qui doivent être abaissées, et ces collines qui doivent être arasées, et ces vallées, au contraire, qui doivent être remplies pour qu'on puisse présenter une surface plane pour l'arrivée de notre Seigneur Jésus-Christ, qui ne trébuche pas sur le sentier qui mène à la porte de notre âme. Donc la montagne représente l'orgueil. Et au contraire, donc il faut aplanir l'orgueil, détruire l'orgueil et combler les vallées. Les vallées souvent représentent le manque de confiance en Dieu. Il faut combler les vallées pour que la surface soit unie et pour permettre à notre Seigneur Jésus-Christ d'accéder facilement à notre âme. Donc voici le sens de cette parole donc, que l'on trouve ici à verset 19. « Transporte-toi d'ici là, et si elle s'y transportait... » Non, pardon, je reprends. « En vérité, je vous l'ai dit, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne, transporte-toi d'ici là, elle s'y transporterait, et rien ne vous serait impossible. » Donc voilà ce que disent les pères sur le sujet. Vous direz à cette montagne, c'est-à-dire au démon plein d'orgueil, transporte-toi d'ici, c'est-à-dire de ce corps que tu obsèdes dans les profondeurs de la mer, c'est-à-dire dans les abîmes de l'enfer. Et il s'y transportera et rien ne vous sera impossible, c'est-à-dire qu'il n'y aura point de maladie que vous ne puissiez guérir, à condition qu'il y ait suffisamment d'humilité d'une part et de confiance en Dieu d'autre part. Ou bien, dans un autre sens, disaient les pères, de peur que les apôtres ne vinssent à s'enorgueillir des miracles qu'ils opéraient, notre Seigneur les avertit de chercher plutôt à remplacer la vanité naturelle à l'homme, figurée ici-bas par une montagne élevée, par l'humilité de la foi qu'il compare à un grain de sénévé. Donc la montagne représente non seulement l'orgueil, mais aussi la vanité naturelle à l'homme, qui est une certaine forme d'orgueil. Et donc, il va falloir... transporter cette montagne d'orgueil, la faire disparaître et la remplacer par l'humilité représentée par la graine de moutarde. Alors notre Seigneur Jésus-Christ va donner l'explication aux apôtres en disant pourquoi ils n'ont pas pu chasser ce démon qui prenait possession de l'âme de ce lunatique, le fils de l'homme qui venait chercher notre Seigneur Jésus-Christ. Eh bien, il dit... Notre Seigneur leur explique que ce genre de démon ne se chasse que par la prière et par le jeûne. Alors, voyons un petit peu d'autres explications des pères. La prière lui est encore plus nécessaire car celui qui joint le jeûne à une prière bien faite est affranchi de bien des nécessités. Bon, attention, la prière est en soi plus importante que le jeûne. On peut jeûner par orgueil. Quand on est seul devant le bon Dieu pour prier, que personne ne nous voit, il est beaucoup moins tentant de tomber dans l'orgueil. Par contre, le jeûne, qui est souvent fait en public, est dangereux dans le sens qu'il peut faciliter l'orgueil. Pour cela que dans les monastères, le jeûne est très sérieusement encadré par les lois intérieures du monastère. Et même pour le carême, puisque nous sommes maintenant en carême, d'ailleurs aujourd'hui c'est le 6 mars, c'est le jour du mercredi descendant, donc le début du carême, eh bien ce carême justement nous prépare à transporter les montagnes hors de notre âme pour que notre Seigneur Jésus-Christ puisse accéder plus facilement à l'intérieur de notre âme. Et cette montagne, c'est la montagne de l'orgueil, la montagne de la vanité. Donc, la prière affranchi de bien des nécessités et l'homme ne sera plus à ce moment-là esclave de l'avarice. Au contraire, sa main se répand facilement en aumône. De même, celui qui jeûne est beaucoup plus dégagé, sa prière est plus attentive et plus recueillie. Il éteint dans son cœur les mauvais désirs, se rend Dieu propice et humilie l'orgueil de son âme. Par tradition, le jeûne de carême surtout, est un jeûne, on appelle le jeûne ecclésiastique, qui a pour but de nous aider à vaincre l'orgueil d'une part, et surtout aussi à vaincre les tentations contre le 6e et 9e commandement, toute la concupiscence de la chair. Alors, je rappelle puisque je suis sur ce sujet, je vous rappelle, tous ceux qui m'écoutent sur Internet, je vous rappelle les lois de Pie XII concernant le jeûne pendant le carême. Donc à partir du mercredi des cendres jusqu'à la messe de minuit du jour de Pâques, du samedi saint au soir, eh bien il y a jeûne tous les jours sauf les dimanches. Hein, jeûne, attention, le jeûne que demandé par l'Église est le jeûne ecclésiastique, c'est-à-dire un repas par jour, et avec possibilité de rajouter ce qu'on appelle un froustouloum le matin ou le soir, et même les deux, c'est-à-dire un petit rajout de nourriture le matin ou le soir, pour ceux qui n'arrivent pas à tenir le coup, avec un seul repas par jour. Des dispenses aussi qui peuvent être accordées par les prêtres. Avant, c'était les curés qui donnaient ces dispenses pour les gens qui ont des gros travaux physiques. C'est évident que quelqu'un qui a un gros travail physique, souvent, ne peut pas arriver à tenir le coup avec simplement un repas par jour. De même, certaines personnes, les mamans enceintes, par exemple, certaines personnes qui peuvent avoir des maladies ou des problèmes de diabète, par exemple, sont obligées de manger plus souvent. De ne partir pas, mais plus souvent. Donc, n'hésitez pas à demander les dispenses dont vous avez besoin. Mais si vous n'avez pas besoin de dispense, il ne faut pas demander la dispense. Il faut avoir une haine de la dispense qui n'est pas nécessaire. Donc, jeûne tous les jours pendant le carême, sauf le dimanche. Et se rajoute à ce jeûne l'abstinence tous les vendredis. Donc, les vendredis de carême, il y a jeûne et abstinence. Et les autres jours du carême, sauf le dimanche, il y a jeûne et abstinence. Il faut rajouter cette abstinence des vendredis, dont pendant le carême, également le jeûne et l'abstinence des quatre temps. Donc pendant le carême, il y a les quatre temps de carême. Et pour ces quatre temps, vendredi, les quatre temps, évidemment, il y a jeûne parce que c'est le carême, abstinence parce que c'est un vendredi, mais il y a aussi jeûne et abstinence le mercredi des quatre temps et le samedi des quatre temps. Je rappelle que l'abstinence représente et est demandée, à savoir l'absence de viande. Je pas de viande, les jours d'abstinence. Et donc il faut qu'on considère que ces jeûnes et cette abstinence, cette pénitence de carême, n'est qu'un moyen indirect pour obtenir une vie de prière plus forte. On jeûne, on fait pénitence, le jeûne et la prière. Le jeûne est nécessaire, bien sûr, mais le plus important, c'est la prière. Un jeûne qui n'est pas fait dans un motif surnaturel est un jeûne qui vaut rien. Parfois, il y a des gens qui font un jeûne très très fort pendant le carême. L'unique raison de leur jeûne, c'est parce qu'ils veulent perdre du poids. Bon, très bien, c'est pas forcément une mauvaise chose de vouloir perdre du poids, d'utiliser le jeûne du carême comme un moyen de perdre du poids, très bien, mais il faut pas que ce soit le but de la manœuvre. On jeûne pour soumettre la volonté propre à notre Seigneur Jésus-Christ, et on jeûne aussi et surtout pour lutter contre les concupiscences de l'orgueil d'une part, et aussi la concupiscence de la chair, concupiscence du 6e et du 9e commandement. C'était le grand moyen utilisé surtout par les anciens, c'est toujours valable aujourd'hui, pour lutter contre les concupiscences, contre la concupiscence de l'orgueil et des concupiscences des yeux et concupiscences de la chair. Donc le jeûne, l'aumône et la prière. Donc le jeûne, surtout contre la concupiscence de la chair, l'aumône contre la concupiscence des yeux, et la prière contre la concupiscence de l'orgueil. Donc le jeûne prépare la prière, avance l'âme vers la prière. Alors, voyons un petit peu, continuons un petit peu les textes des pères. Celui qui jeûne est beaucoup plus dégagé, sa prière est plus attentive et plus recueillie. Page 14 du Polycopié. Il éteint dans son cœur les mauvais désirs, se rend Dieu propice et humilie l'orgueil de son âme. Donc, celui qui sait unir, disent les pères, la prière au jeûne, a pour ainsi dire deux ailes plus rapides que les vents. Il ne se laisse atteindre dans la prière ni pendant l'ennui ni par la tiédeur, défaut si commun dans un grand nombre. Mais il est plus ardent que le feu et plus élevé que la terre, et un tel homme est par-dessus tout redoutable aux démons. Rien n'est plus fort que l'homme qui sait prier. Donc si on joint à la prière le jeûne, on alimente en quelque sorte notre prière. La prière qui est alimentée par le jeûne sera encore plus forte qu'une prière qui n'est pas alimentée par le jeûne. Attention donc pour toutes ces histoires de jeûne, de ne pas tomber dans l'orgueil. L'orgueil va détruire complètement les bénéfices du jeûne. Si la faiblesse de votre tempérament en bas de la page 14 ne vous permet pas de jeûner continuellement, au moins vous permet-elle de prier, et si vous ne pouvez jeûner, vous pouvez au moins ne pas vous livrer à la volupté. Or, c'est par là un acte de haute importance et qui égale presque le mérite du jeûne. Donc le jeûne, c'est pas simplement un jeûne physique, de ne pas prendre plus qu'un repas par jour, mais c'est aussi et d'abord une mortification de notre volonté propre. Une mortification du péché. Le jeûne, ça correspond à un jeûne du péché. Donc le premier jeûne qu'il faut pratiquer pendant le carême, c'est évidemment l'abstention du péché. L'abstention d'un trop grand attachement au bien de ce monde. Donc c'est un bon moment pendant le carême, pas simplement de faire pénitence en matière de nourriture, mais également faire pénitence pour lutter contre l'attraction des choses mondaines. Donc beaucoup de personnes, avec raison par exemple, rajoutent comme pénitence de carême, par exemple pour certaines personnes, de s'abstenir de fumer tout simplement, ou de vapoter. Pour d'autres personnes, ça soit de s'abstenir de télévision. Pour d'autres personnes, s'abstenir de l'usage non nécessaire d'Internet, s'abstenir de téléphone portable, quand ce n'est pas absolument nécessaire. Le jeûne, c'est aussi l'abstention, se couper des choses du monde qui nous maintiennent vers la boue de ce monde et qui nous empêchent de nous élever vers le ciel. Le jeûne doit aussi s'entendre dans un sens plus étendu, en bas de la page 14 sur le polycopier, non seulement de l'abstinence des aliments, mais du renoncement à toute volupté charnelle et à toutes les passions qui portent au péché. Il faut entendre également la prière dans un sens général, en tant qu'elle comprend les œuvres de la piété et de la charité, prière que l'apôtre recommande quand il dit « ne cessez pas de prier ». Donc, traditionnellement, et je pense qu'il faut toujours essayer de pratiquer ces choses-là, traditionnellement, on pratique, les chrétiens sont invités, surtout pendant la période de carême, donc du mercredi des cendres jusqu'au jour de Pâques, jusqu'à la veillée pascale, du soir du samedi saint, sont invités surtout à pratiquer. Donc, et le jeûne, et l'aumône, et la prière. Pour cela, c'est une tradition en France, qui n'existe pas dans tous les pays, mais en France, c'est un petit peu la tradition, bien que ce ne soit pas une obligation de faire à ce moment-là, c'est quand même une tradition de pratiquer l'aumône, surtout pendant le carême. Et l'aumône particulière qui est demandée aux fidèles, c'est de pratiquer l'aumône à l'égard de l'Église, hein, ce qu'on appelle le denier du culte. Le denier du culte, bon, il est évident que déjà la quête qu'en général, à laquelle vous participez par vos dons volontaires pendant le dimanche à la messe, la quête du dimanche est déjà une aumône. Mais l'Église conseille beaucoup aux gens, aux catholiques, pendant le temps de carême, de pratiquer justement ce denier du culte et d'être un peu plus généreux, pratiquer davantage l'aumône, surtout pour lutter contre la concupiscence des yeux et lutter contre l'attachement des choses de ce monde. N'oubliez pas que celui qui travaille à l'autel doit vivre à l'autel. Certes, il est important que les prêtres aient un esprit de pauvreté, une vie de pauvreté, mais il faut que vous sachiez que les prêtres, comme tout le monde, ils vivent pas d'amour et d'eau fraîche, comme on dit, et ils ont bien aussi la facture à payer. Il faut aussi que les fidèles comprennent ça. Bon, encore une fois, je n'aime pas parler d'argent, et j'en parle le moins possible, mais puisque c'est le sujet un petit peu de... Le monde est aussi un sujet important pendant le temps du carême, il faut en parler maintenant. Donc, merci par avance pour votre générosité, pour vos prêtres en général, et pour votre serviteur en particulier. Alors, continuons à la page 15. Avec la grâce de Dieu, qu'il ne dédaigne jamais de donner, cette foi et cette confiance sont en notre puissance, en notre propre puissance et pouvoir. Ainsi, la faculté de faire des miracles réside d'une certaine façon dans notre pouvoir, et plus on augmente en nous notre cœur la foi et la confiance en Dieu, plus nous augmentons cette faculté. Ici, les pères donnent des exemples. Il y en a un qui est assez connu, c'est dans la vie de Saint Grégoire le Thaumaturge, évêque de Néo-Césarée, donc, qui avait été mêlé à la construction d'une église qui ne pouvait pas être terminée parce qu'il y avait une montagne qui empêchait d'avoir suffisamment d'espace pour construire l'église. Et donc, Saint Grégoire le Thaumaturge est allé passer toute la nuit en prière près de cette montagne en demandant à ce que, à la suite de cette promesse de notre Seigneur Jésus-Christ, si vous disiez à cette montagne, transportez-toi d'ici là, et elle se transporte, transporte-toi d'ici là, et elle s'y transporterait. Et donc, Saint Grégoire a prié pour demander à ce que cette montagne disparaisse. C'est ce qui s'est passé. Elle fut transportée en une autre place par ses prières. Donc il y a un autre exemple que je ne connaissais pas, mais j'ai trouvé aussi chez le Père. Identiquement, une montagne de Tartarie fut enlevée par la prière des chrétiens quand un tyran demanda ce miracle selon les promesses du Christ. Et donc Saint Jérôme donne un exemple similaire dans la vie de Saint Hilarion. Alors que la mer, après un tremblement de terre, elle avait d'énormes masses d'eau au-dessus du rivage, c'était un tsunami tout simplement, et menaçant de destruction la ville d'Épidaurus, il fut placé par les habitants sur le rivage comme un rempart contre les vagues. Il dessina sur le sable trois signes de croix, étendit ses mains contre la mer, alors qu'elle enflait devant lui et qu'il restait debout et immobile, et la mer rugit fortement pendant longtemps comme une colère contre le rempart, mais puis lentement se calma et revint à son niveau normal. Donc quoi, la prière peut être très efficace contre les tsunamis. C'est là l'accomplissement à la lettre de ce que le Christ avait dit à ses apôtres. Voilà. Si vous croyez, vous direz à cette montagne, jette-toi dans la mer, elle le fera. Car voyons-nous une différence entre une montagne jetée à la mer et une immense masse d'eau soudain arrêtée au pied d'un vieil homme. Alors, je vous l'ai déjà dit, cette montagne représente l'orgueil et la vanité. Mystiquement, elle est une tentation. Elle représente la tentation aussi. C'est la tentation, surtout la tentation d'ambition et d'orgueil. C'est l'enseignement de Saint Jérôme, qui en connaît un rayon en matière d'interprétation de l'Écriture sainte. C'est pour ça que j'invoque toujours Saint Jérôme au début des cours d'exégèse, parce que Saint Jérôme est certainement le plus grand des exégètes catholiques. De même que Saint Thomas d'Aquin est le plus grand des théologiens et des philosophes de l'Église catholique, Saint Jérôme était surtout connu par sa science exégétique. Donc, la montagne est une sévère tentation, surtout d'ambition et d'orgueil. Une telle tentation est combattue par la foi et l'espérance. Donc, Saint François, ici, c'est un exemple que j'ai trouvé aussi chez les pères. Saint François, étant une fois troublé par une terrible tentation, se mit en prière avec larmes et entendit une voix du ciel lui disant, avec une faute d'orthographe d'ailleurs que je n'avais pas vue, alors que je corrige. Une voix du ciel lui disant, François, si vous aviez la foi, gros comme une graine de moutarde, vous auriez commandé à cette montagne de disparaître et elle aurait disparu. Mais François, ne comprenant pas la signification de cet avertissement, s'écria, qu'est-ce que cette montagne, Seigneur? Et la réponse lui fut donnée, la tentation est cette montagne. François ajouta, avec beaucoup de larmes, ô Seigneur, qu'il en soit fait en moi selon votre parole. Et immédiatement, la tentation disparut, il obtint une parfaite tranquillité. Donc un des moyens de vaincre les tentations, surtout les tentations d'orgueil et les tentations contre la chasteté, c'est le jeûne et la prière. Surtout quand on joint les deux, comme jeûne étant un moyen d'alimenter la prière. La prière est plus forte avec le jeûne. Alors avançons dans le chapitre 17 de Saint Matthieu. Versets 22 et 23. Donc, notre Seigneur reprend le chapitre 17, verset 21. Le Fils de l'homme doit être livré entre les mains des hommes, et ils le feront mourir, et le troisième jour il ressuscitera. Et ils furent vivement attristés. Lorsqu'ils furent venus à Capharnaüm, celui qui recevait les 10 drachmes, c'est-à-dire le percepteur des impôts, s'approcha de Pierre et lui dit : Votre maître ne paye-t-il pas le tribut à César ? Donc, on voit bien ici-bas que notre Seigneur, on voit bien ici que notre Seigneur fait une annonce supplémentaire, il va en faire plusieurs, de l'arrivée de sa passion. On est bientôt à la passion, c'est pour ça qu'il s'est transfiguré devant ses disciples préférés, pour les prévenir de l'arrivée de la passion. Attention, n'oubliez pas, je suis Dieu, vous le voyez avec la transfiguration, dans quelques jours vous allez voir mon humanité qui va être écrabouillée par la croix. Ne vous découragez pas, n'oubliez pas que cette humanité, si elle doit souffrir, être détruite par la mort, elle ressuscitera le troisième jour à cause de l'union de cette humanité avec la divinité. Notre Seigneur Jésus-Christ étant en une seule personne, ayant en une seule personne deux natures, nature humaine et nature divine. En tant que nature humaine, il peut souffrir et mourir, mais en tant que nature divine, il peut ressusciter d'entre les morts. La croix était donc un objet de scandale pour les apôtres et tous abandonnèrent le Christ et s'enfuirent. Tous, même Saint-Pierre, même le futur pape. Il fallait donc que la croix soit prêchée, reprêchée, imprimée en eux pour qu'ils comprennent que le Christ n'avait pas souffert parce qu'il était obligé, mais qu'il le faisait librement en obéissant à la volonté de son Père pour qu'il puisse racheter le genre humain. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Et notre Seigneur Jésus-Christ applique ça avec la passion. Versets 24 à 26. Donc il répond au précepteur d'impôts qui demande à Pierre, « Votre maître ne paye-t-il pas le tribut ?» Et il dit, et Saint-Pierre répondit, « Oui. » Et quand il fut rentré dans la maison, Jésus le prévint en disant, « Que vous ensemble, Simon, de qui les rois de la terre reçoivent-ils le tribut ou l'essence, ou le sens de leurs fils ou des étrangers ? Pierre répondit, des étrangers. Jésus lui dit, les fils en sont donc exempts. Ça veut dire que moi, je ne suis pas tenu, nous on est les fils, les enfants, donc on n'est pas tenu à payer l'impôt. Mais vous, pour que nous ne les scandalisions point, allez à la mer, jetez l'hameçon et tirez le premier poisson qui montera. Et en lui ouvrant la bouche, vous trouverez un statère, une pièce de monnaie. Prenez-le, donnez-le pour moi et pour vous. Notre Seigneur Jésus-Christ applique sa règle, malheur par qui le scandale arrive. Il faut éviter le scandale des faibles. Mais il y a certaines choses qu'on n'est pas tenu de faire, mais pour éviter le scandale des faibles, il vaut mieux faire certaines choses, même si, qui ne sont pas d'obligation, pour éviter de scandaliser les petits. Donc, comme les disciples avaient été attristés en entendant parler des souffrances du Sauveur, afin que personne n'attribuât à sa passion à la nécessité plutôt qu'à son humilité, l'évangéliste rapporte un fait qui démontre à la fois la liberté et l'humilité de Jésus-Christ. On vient demander au Seigneur de payer l'impôt de 2 drachmes, c'est-à-dire de 2 deniers. La loi commandait en effet à tous les Israélites, pour le rachat de leur corps et de leur homme, cet impôt destiné à l'entretien des ministres du Temple. D'autres textes des pères. Je vais essayer de terminer le chapitre 17 de Saint Matthieu, ce sera plus simple. Bien que quelques-uns soient étrangers au fils des rois de la terre, par ceux-là même qui sont les enfants de Dieu, ils sont libres. Donc la liberté, Dieu nous donnera une véritable liberté par le fait que nous sommes enfants de Dieu. Ce sont ceux qui persévèrent dans les enseignements de Jésus qui ont connu la vérité, que la vérité a délivré de la servitude du péché. Donc les rois, les fils des rois de la terre ne sont pas libres, car quiconque commet le péché devient esclave du péché. Donc notre liberté arrivera pour nous le jour où nous serons coupés de l'esclavage qui vient du péché. Le péché comme une chaîne qui nous unit aux démons. Et donc par la confession, par la communion fréquente, eh bien je peux couper cette chaîne, et ayant coupé cette chaîne, je me retrouve libre de suivre notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, le Fils de Dieu nous donne ici l'exemple, lui qui ne fit jamais aucune œuvre servile, il paya cependant l'impôt et la capitation, parce qu'il avait revêtu la forme d'esclave par amour pour les hommes. Jésus-Christ, dans son excessive charité, a donc souffert la mort de la croix, payé les impôts, et nous, malheureux que nous sommes, qui portons le nom du Christ, et qui n'avons jamais rien fait de digne d'une si grande majesté, nous sommes affranchis du tribut par honneur pour lui, et exemple d'impôts comme les fils des rois. En France, c'est pas tout à fait le cas. 70% d'impôts, pratiquement, n'est pas au bout de nos peines. Et c'est une phrase importante. Remarquons en effet que nous devons, autant que nous pouvons, s'empêcher et éviter de scandaliser le prochain. Mais si c'est la vérité même qui donne lieu au scandale, il vaut mieux le permettre que de sacrifier la vérité. Donc, malheur par qui le scandale arrive, mais malheureusement, dans certains cas, mais il faut bien scandaliser un petit peu les gens parce que nous devons affirmer notre foi catholique. Si l'affirmation de notre foi catholique entraîne un scandale pour les faibles, eh bien, il faut maintenir ce scandale parce que la foi catholique doit être affirmée. Si c'est la vérité même qui donne lieu au scandale, il vaut mieux la permettre que de sacrifier la vérité. Donc ici, il y a d'autres textes d'Origène, puis de Saint-Hilaire et de Saint-Jérôme. Voilà le texte d'Origène, donc au sens figuré, Saint-Origène, il n'est pas saint, hein. C'est un des rares pères de l'Église qui n'est pas canonisé, des pères très connus de l'Église, et lui et Tertullien qui ne sont pas canonisés, à cause de certains excès dans lesquels ils sont tombés, entre autres dans l'interprétation de l'Écriture sainte pour Origène. Il était millénariste et il a dit des bêtises dans ce domaine. Dans le sens figuré, notre Seigneur, dans le champ de la consolation, c'est ce que signifie le mot Capharnaüm, console tous ses disciples. Il les déclare les enfants libres et leur donne le pouvoir de pêcher ce premier poisson dans lequel Pierre trouve sa consolation comme le fruit de sa pêche. En commandant à Pierre, c'est le texte de Saint-Hilaire, commandant à Pierre d'aller pêcher le premier poisson, le Seigneur nous déclare que d'autres viendront à la suite. Donc, le premier Étienne, le premier des martyrs, et le premier tiré de l'eau. Donc, Saint-Étienne représente le premier poisson. Donc, le premier poisson, plus exactement, représente Saint-Étienne, qui sera le premier martyr. Il a dans la bouche le 10 drachmes de la prédication nouvelle, la valeur de 2 deniers, car il prêchait en contemplant dans son martyr la gloire de Dieu et notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, le poisson qui pêche est le premier poisson d'une pêche miraculeuse que va faire l'Église, à savoir la conversion des nations. Donc Saint Jérôme interprète de façon un petit peu différente, en disant le premier poisson qui est tiré de l'eau, c'est le premier Adam qui est délivré par le second Adam. Premier Adam, c'est notre Père, premier homme, deuxième Adam, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Et ce qui est trouvé dans sa bouche, c'est-à-dire dans sa confession, est donné à la fois pour Pierre et pour le Seigneur. Notre Seigneur Jésus-Christ va, d'après une tradition qui n'a jamais été prouvée, mais qui est très ancrée, la tradition dit que le deuxième Adam, notre Seigneur Jésus-Christ, va même mourir à l'endroit où était enterré le premier Adam. C'est pour ça que le Golgotha, l'endroit où notre Seigneur Jésus-Christ va mourir sur la croix, Golgotha en araméen, ça veut dire le lieu du crâne. Pourquoi le lieu du crâne? Parce que c'est à cet endroit, d'après une tradition qui n'a jamais pu être prouvée historiquement, mais qui est très, très ancrée, la tradition dit que sous le rocher du calvaire est caché, est enterré le crâne du premier homme, Adam. Donc évidemment, le symbole est magnifique, le nouvel Adam qui vient mourir pour racheter les fautes du premier Adam et qui meurt à l'endroit même où est enterré le crâne du premier homme. Encore une fois, ce point n'a jamais pu être prouvé historiquement. Alors, Saint Jérôme interprète de façon différente. Encore un texte d'Origène. Lorsque vous verrez un avare corrigé par quelques nouveaux pierres qui lui aura retiré de la bouche le langage des intérêts de la terre, vous pouvez dire qu'il a été tiré à l'aide de l'hameçon de la raison du sein de la mer, c'est-à-dire des flots, des sollicitudes de l'avarice, et qu'il a été pris et sauvé par ce nouvel apôtre qui lui a enseigné la vérité et lui a donné à la place les 2 drachmes, l'image de Dieu, c'est-à-dire sa parole. Et donc c'est une interprétation allégorique du texte dont notre Seigneur Jésus-Christ nous parle. Donc ce poisson qui est tiré de l'eau par Saint-Pierre donc représente la conversion des pécheurs qui quittent la mer du monde pour venir dans les filets de notre Seigneur Jésus-Christ et terminer dans l'Église. Alors, Saint Jérôme explique, il est à remarquer que c'est la même somme qui est payée, mais dans un sens différent, car pour Pierre, elle est payée comme pour un pécheur. Notre Seigneur, au contraire, n'ayant commis aucun péché. Cependant, comme preuve qu'il avait une chair semblable à la nôtre, la même somme est payée pour le Seigneur et pour le serviteur. Donc, les Juifs, c'est Saint Jérôme aussi, je crois, avaient la coutume de payer un didrachme pour le temple. Et les Romains exigèrent qu'ils leur payassent la même somme. Et jusqu'à leur révolte, quand Jérusalem fut assiégée et capturée par Vespasien. Le temple ayant été détruit, ils ordonnèrent aux Juifs de payer ce didrachme, une pièce de monnaie romaine, au Capitole romain. Les Juifs avaient horreur de payer ce tribut aux Romains et disaient qu'ils étaient le peuple de Dieu et donc étant libres, se devaient de payer l'impôt à Dieu et non à César. Et ce sentiment donna, dit Saint Jérôme, naissance au temps du Christ à la secte des Galiléens, dont le chef était Judas de Galilée, qui refusa de payer tout impôt à César et de reconnaître son autorité. Donc le Christ et ses apôtres étaient appelés les Galiléens. Ils furent suspectés même d'appartenir à cette secte, qu'on appelait les Galiléens encore une fois, car ils étaient de Galilée, et ils prêchaient un nouveau royaume céleste. Pour montrer le manque de fondement de cette secte, attendez, j'ai perdu ma ligne, moi, une seconde, je reprends mon texte là. Pour montrer le manque de fondement de cette imputation, le Christ, à la première occasion, paya le didrachme. Il le fit également pour faire comprendre à Pierre qu'il sera le vicaire de son église et qu'il était destiné à devenir la tête et le prince des autres apôtres. Donc Saint-Pierre, qui paye le didra, qui paye l'impôt, et pour lui, et pour notre Seigneur Jésus-Christ, représente donc déjà sa future autorité de vicaire du Christ, quand il va devenir, après la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ, le premier pape, qui n'est pas encore. Donc apprenez, en bas de la page 16, par ce passage à comprendre le zèle du Christ pour la pauvreté, car il n'avait pas en sa possession un shekel pour payer le tribut, mais il l'obtint miraculeusement d'un poisson. Il enseigna que par le moyen des poissons et des autres créatures, Dieu procure les choses nécessaires, comme il procura de la nourriture à Élie par le ministère du corbeau. Donc nous avons terminé le chapitre 17 de Saint Matthieu. Et avant de clore par une prière, je voudrais rappeler que j'ai de la place encore pour la retraite du 18 au 23 mars. Donc s'il y en a qui sont intéressés par les exercices Saint-Ignace ici, près de Padiès, dans le Tarn, c'est la frontière entre le Tarn et l'Aveyron, en fait, au nord d'Albi, vous êtes les bienvenus, il y a encore deux places. Nous allons terminer par une prière. Au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Nos saints anges gardiens, veillez sur nous. Saint Pédis, priez pour nous. Saint Joseph, priez pour nous. Saint Thomas d'Aquin, priez pour nous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.